C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Quel privilège de recevoir avec nous ce soir celui qui, depuis plus d'une quinzaine d'années, préside les destinées des Kings de Los Angeles, impliqués dans une course aux séries. Eux qui ont vécu également un processus de reset, reconstruction. Je sais pas c'est quoi le mot préféré de notre invité, Luc Robitaille. Bien le bonsoir, Luc.
Bonsoir, comment ça va?
Ben, ça va très bien. Je suis content de te parler. Et toi, comment tu trouves l'allure de la saison de ton club, là, qui vous a obligé à faire un changement au niveau du coaching, là? Fait que, mais ça a l'air reparti ouais. Comme fou avec 4 victoires de suite, Luc.
Oh, écoute, on a toujours dit qu'on avait une bonne équipe. C'est sûr qu'on était désappointé un petit peu du stretch qu'on a eu pendant presque quasiment un mois. Fait que ça vient long des temps. Puis malheureusement, on était obligé de faire une décision difficile. Mais des fois, dans le monde du sport, il y a des décisions qui sont pas populaires ou quelque chose comme ça. Puis il fallait faire quelque chose pour au moins changer la direction de l'équipe, et puis jusqu'à maintenant, je pense qu'on a pris la bonne décision avec Rob Blake, et puis l'équipe est revenue, puis on aime ça, la façon qu'on joue.
Mais il faut dire aussi que là, tu sais, il y a une couple d'années où tu n'as pas trop d'attente, tu donnes du temps de glace à tes jeunes, vogue la galère, comme dirait Ron, puis là, ben 44 victoires vont revenir en série, 47 victoires, whoops! Là, il y a des attentes, là. Fait que cette année, vous partiez avec des grosses attentes, je pense. Comment ton club a réagi à ces attentes-là? Puis sais-tu ce qui explique le fait que ben, vous allez probablement avoir un petit peu moins de victoires que les deux précédentes saisons?
Non, je pense qu'on a bien commencé. Que lorsque tu perds 11 matchs en supplémentaire ou en shootout, comme on dit, tu sais, ça fait des choses. Des fois, il y a un peu de chance, puis il y a d'autres fois, au moins. Mais lorsque tu es là, tu sais au moins que t'es là, tu te rends jusqu'à la fin du match. Des matchs serrés. Donc, on aime la façon qu'on joue. Au début de la saison, on a parti, puis nos gars travaillaient plus fort. On a toujours parlé qu'on avait beaucoup de profondeur, mais disons que les quatre derniers matchs, c'est la première fois cette année, à part un joueur, qu'on est tous en santé. Donc, des fois, ça prend du temps avant que tu reviennes comme ça, mais je pense qu'on... On n'a pas de joueurs, mettons, comme McDavid, tout ça, tu sais, qui venons de McKinnon, mais on a plusieurs joueurs, puis on a beaucoup de profondeur en tant qu'équipe.
Luc, je me rappelle de quelques entrevues que tu nous as accordées au fil des ans, puis la grande admiration que tu as toujours eue pour celui qui est toujours votre leader, Andy Kopitar, lui qui vient de franchir le cap là, des 1200 points et plus en carrière, qui continue d'être votre meilleur pointeur à 36 ans. Je sais pas si une fraction de seconde, à un moment donné, d'un grosse décision qui vienne avec une reconstruction ou un reset, vous avez déjà envisagé de dire, hey, qu'est-ce qu'on aurait en retour d'un Carpenter, comme Pittsburgh peut se demander qu'est-ce qu'on aurait en retour d'un Crosby, mais jusqu'à quel point vous félicitez qu'il soit toujours avec vous?
Je pense qu'on n'a pas demandé de cette façon-là. On avait dit à Kopi et Drew Dowdy dans le temps qu'on serait dans un rebuild, et puis on voulait faire sûr qu'ils comprennent ce qu'on faisait. Et puis qu'ils soient on board. Puis ils ont dit que dans le temps qu'ils étaient on board, et puis on a continué avec eux autres. Tu sais, Thierry a dit, écoute, si vous allez faire ça, j'aime mieux être échangé. Tu sais, en tant que joueur, tu le respectes et tu l'aides. Mais vu qu'ils ont dit, non, on veut travailler avec vous autres et puis on va bâtir l'équipe, ben ça nous a aidé à faire que ça a duré juste 2 ans, dans le fond, tu sais.
Oui, parce que tu avais tes références déjà dans le vestiaire. Fait que tous tes jeunes qui arrivent, tu repars pas de zéro.
C'est ça, exactement.
Qu'est-ce que tu peux me dire sur Andy Kopitar comme joueur, ce qu'il représente pour les Kings de Los Angeles? C'est-tu la moins... Tu sais, au salaire qui est payé, parce qu'il représente pour les Kings, c'est une star dans la Ligue, mais c'est-tu la plus sous-estimée des stars de la Ligue?
Oui, écoute, s'il serait à Boston, ou bien à Montréal ou à Toronto, il serait autant estimé que Patrice Bergeron. Tu sais, c'est deux joueurs qui sont quasiment pareils. La différence, c'est que Kopi n'a probablement jamais eu de Brad Marchand ou ben non de Pasternak, mais c'est deux joueurs vraiment spéciaux, Patrice puis Kopi, puis on dirait à chaque année Bergeron gagne, puis l'année d'après ou 2 ans plus tard, c'est Kopi. Les deux, Kopi a gagné une coupe de plus, mais c'est deux joueurs qui ont 200 pieds, puis c'est des joueurs exceptionnels qui font des efforts dans leurs équipes que des fois les fans ne voient pas, mais que leurs coéquipiers voient, puis c'est ça qui fait que ces joueurs-là sont vraiment spéciaux.
Qui est le joueur le plus apprécié du public de votre marché, Luc? C'est celui là qui fait lever le monde de le siège, parce que c'est une équipe de, tu sais, c'est une grosse équipe, mais puis il y a des vedettes encore là, mais tu sais, on n'a pas de McDavid et de McKinnon non plus là chez vous là.
Ben, nous autres, écoute, ici, en tant qu'équipe, nos fans apprécient. Écoute, ils apprécient Kobe, mais c'est pas, c'est la façon qu'il joue. Je pense que Drew Doughty, c'est toujours été un fan favori. Le kid de Quentin Byfield, il s'en vient un fan favori parce que de la façon qu'il joue cette année, que ses efforts. Kevin Fiala aussi, les fans l'apprécient beaucoup. Mais on a plusieurs joueurs parce qu'on est. La façon dont notre équipe est bâtie, on a beaucoup de travailleurs. Donc, nos fans, ils aiment bien. Comme ils ont pris beaucoup de. Sont bien chaleureux envers Philippe Deneau parce qu'ils savent qu'à chaque match, il donne tout ce qu'il a pour essayer d'aider son équipe à gagner. Donc, des joueurs comme Philippe, puis comme Arvidsson, puis Trevor Moore, ben, nos fans, ils apprécient bien gros, tu sais.
Il n'y a pas de tricheur chez les Kings de Los Angeles. Et puis, vous avez... Et je regarde dans l'Ouest, remarque qu'autant j'ai beaucoup de respect pour votre équipe. Et même toi, quand tu regardes ça pour le fun, là, essaie de piger l'équipe qui va sortir de l'Ouest, Luc, cette année. Puis tu vas me dire, c'est peut-être pareil à toutes les années, là, mais je regarde ça cette année puis j'arrive pas à me faire une idée. Je sais pas comment tu vois ça le reste de la saison puis les séries dans l'Ouest.
Non, ça sera pas... Écoute... Mais je pense maintenant, les séries éliminatoires, c'est pas comme c'était dans le temps... Il y a 16 équipes sur 32 qui font une série. Moi, quand j'ai commencé, il y avait 16 équipes sur 21. Donc, t'avais encore un autre 4-5 équipes qui rentraient dans les séries qui n'étaient pas fort. Maintenant, chaque équipe qui rentre dans les séries peut battre. T'sais, ça veut pas dire que c'est match qu'ils vont gagner les mains, mais t'es capable de battre n'importe qui chaque soir. Donc, ça devient un système. Ça a beaucoup à voir avec les blessures aussi. Mais disons qu'écoute, dans notre conférence, on sait que Colorado, c'est une bonne équipe. Les Oilers, ils jouent bien. Dallas sont forts. Là, dernièrement, on n'avait pas vu ça. Nashville, ils perdent plus, ils sont plus capables de perdre, on dirait.
Ben oui.
Vegas, ils ont des blessés, mais c'est une bonne équipe. Puis lorsqu'ils vont rentrer dans les séries, ben, ils vont être dangereux. Donc, ce sera pas facile, on le sait tout, tu sais.
Et aimez-vous votre ligne de centre à l'approche des séries éliminatoires? Comment ça se place pour Pierre-Luc Dubois? Jamais évident de changer de marché. Bon, Philippe l'a vécu avec
non.
vous autres.
Ouais, ça n'a pas été facile pour lui de s'habituer à jouer un rôle différent, mais disons que dernièrement, il joue très bien, puis c'est lui qui la façon. Puis finalement aussi, on était capable de donner un allié que c'est un vétéran, Arvidsson, puis tu vois tout de suite que lui et Pierre-Luc, ça va bien ensemble, puis il produit quasiment un point par game dernièrement, et puis on gagne plusieurs matchs, puis ça a beaucoup à voir du fait que Pierre-Luc en étant, tu sais, on a une ligne avec Dano, une ligne avec Kopitar, puis une ligne avec Pierre-Luc, donc pas le fun de jouer contre nous autres, c'est ainsi, tu sais.
Non, puis je pense que ça sera pas le fun en série non plus, puis je pense que c'est un peu ça le pari, d'avoir une ligne de centre aussi pesante, aussi forte. C'est sûr qu'en saison régulière, faire plaisir à tout le monde, que tout le monde joue avec les meilleurs joueurs pour produire, parce que t'as le monde qui regarde les stats, des fois tu regardes pas les games, ça peut te donner un autre feeling. Tu t'es-tu assis à un moment donné pendant l'année avec Pierre-Luc, tu sais, pour l'aider à s'acclimater, puis de vivre avec tout ce qu'il vivait comme changement cette année, ou t'es assez...
Si on parle des fois, moi j'essaie de parler aux joueurs plus en positif. J'ai vécu moi aussi les changer d'équipe, des fois, tu connais pas ton rôle et puis tout ça, mais disons que je laisse toujours les instructeurs parler de hockey puis gérant général, mais j'ai parlé de la vie puis de s'habituer puis de venir ici. Puis aussi, il y a beaucoup de choses que le monde pense pas, d'avoir un nouveau contrat, c'est bien beau de dire parler de l'argent et tout ça, mais des fois, en tant que joueur, t'as une pression différente puis ça arrive souvent dans la Ligue nationale que les joueurs, dans leur première année de contrat avec une première équipe, des fois, c'est pas pareil, donc disons que la façon qu'ils jouent dernièrement, on est bien, bien contents, nous autres. Et puis, s'ils continuent à jouer de même, ben, on sait qu'ils vont nous aider durant ces éliminatoires.
Ce qui est le fun quand on regarde la composition de votre équipe, je parlais de Kopi Kopitar, de même que, évidemment, de Drew Doughty, là, vos deux vétérans, vos deux poteaux, mais somme toute, à part NZ à 36 ans, puis donc votre défenseur étoile qui était un petit peu plus jeune, 33 de mémoire, Drew, ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Donc, mais votre équipe, votre groupe est quand même relativement jeune. Tu sais, t'as Philippe là, qui est d'un jeune vétéran à 30, fait que ouais. Vous autres, là, vous devriez en principe être bon pour un bout, là.
Ben, c'est ça le but, la façon qu'on a rebâti notre équipe. On a plusieurs joueurs. Tu sais, même tu regardes cette année, le monde n'en parle pas beaucoup, mais on a Byfield, là. Alex Turcotte s'est blessé, fait qu'il a commencé à jouer avec nous autres. On a le Kid Spence à la défense. On a Brent Clark qui s'en vient. On a plusieurs jeunes qui s'en viennent l'année prochaine. Ici, on a le meilleur marqueur de but dans la Ligue américaine, Samuel Fagamo. Donc, d'après moi, il va avoir une bonne chance l'année prochaine. On a un autre bon joueur, Akil Thomas, qui avait joué avec l'équipe Canada, qui a eu une saison extraordinaire. Donc, on s'attend à avoir un autre deux, trois, peut-être même si on est chanceux, quatre jeunes l'année prochaine qui embarqueraient dans notre équipe. Donc, ça regarde bien pour le futur pour nous autres.
Ça fait 17 ans que tu es dans l'état-major, un des hauts dirigeants, président des Kings de Los Angeles, après une carrière exceptionnelle qui t'a valu le retrait de ton chandail puis le temple, Luc. De quoi es-tu le plus fier dans ton après-carrière de joueur comme président des Kings par rapport à ton travail au sein de cette organisation-là puis l'organisation?
Ben, la première chose là, que je suis plus content, c'est que moi j'avais 8 ans là, puis je pratiquais sur le mur avec une balle de tennis, avec mon bâton de hockey, puis j'essayais d'arrêter la balle dans les airs, puis j'ai scoré bien des buts avec des tips, comme on dit. Je savais pas que ça m'aiderait, puis je pratiquais tôt, puis aujourd'hui c'est à 58 ans, puis je travaille encore pour la game que j'aime. Fait que ça, c'est la première affaire que je me dis toujours, je suis bien chanceux.
Ben, mais hein.
L'autre affaire, je pense que qu'est-ce qui est spécial ici, c'est qu'on a utilisé les bonnes runs qu'on a eues pour l'organisation, puis on aide à grandir le monde du hockey aux États-Unis. En Californie, c'est sûr, comme là 5-6 ans, je pense, on a amené la Ligue américaine dans l'Ouest.
Oui.
On est rendu à 10 équipes dans l'Ouest, puis on a des 7 000-8 000 personnes par match à chaque match ici à San Diego, c'est plein souvent. Et donc, il y a une grande grandeur. On travaille sur le hockey amateur. On est rendu qu'on a 7 000-8 000 arenas qu'on a achetées, qu'on fait du hockey amateur. Donc, sur le point de vue de grandir le hockey, je pense que c'est quelque chose. Tu sais, on vient du Canada, puis on prenait tout pour acquis que tout le monde joue au hockey. Tu sais, nous autres au Québec. Mais ici, tu sais, j'aime ça quand je vois qu'il y a bien des petits jeunes qui commencent à jouer au hockey, puis ça l'aide à grandir la game.
Ben, je comprends. Donc, quelle fierté doit t'habiter par rapport à ça? Puis tes performances sur glace, de même que celles des gars de ton époque, ont contribué à ça. Puis c'est comme un peu le cheval de Troie du hockey dans l'Ouest américain. Là, c'est par là que ça a passé. Les Kings veulent pas. Et ouais. Tu sais, je pense à ça puisque c'est vrai que c'est bon ce que tu dis, c'est la Ligue américaine, parce que dans le temps, tu sais, c'était tout dans l'Est, pas mal, tu sais, un petit peu dans le central. Mais là, regardez-vous. Puis peut-être qu'on n'est pas rendu là. Je te parle pas pour demain matin, là, mais êtes-vous attentif à l'évolution de la première année de la Ligue professionnelle d'hockey féminin, là, la PWHL.
Tu peux... Ah oui.
Oui?
Oui, on regarde beaucoup ça. Nous autres, on a eu, ben, l'année dernière, on a eu leur match, je pense que c'est les matchs la fin de semaine de semi-finale qu'on avait eu tout ici, pas la même Ligue, là, mais là, aujourd'hui, nous autres, puis je sais pas si tu sais, mais le propriétaire des Dodgers, c'est lui qui a mis l'argent en arrière de la Ligue au complet.
Donc, absolument.
On leur parle beaucoup, puis avec Stan Caston, moi je suis un chum avec, puis on regarde beaucoup ça. On sait qu'un jour, la Ligue va venir dans l'Ouest, mais je pense que c'est plus important en ce moment de faire sûr que c'est bien bâti, que c'est solide, puis là, ils ont un bon propriétaire en arrière de tout ça. Ils ont c'est vraiment le fun à regarder. Cette année encore, l'année dernière puis cette année, on a fait des matchs Canada contre les États-Unis ici avant nos matchs. Donc, on a eu beaucoup de succès avec ça. Puis, et je pense que c'est bien important de continuer le hockey pour les femmes parce que moi, t'as dit, tu regardes ces matchs-là, c'est des maudits bons matchs.
Ben, je comprends donc. C'est serré à part de ça. Puis, t'es tenu en haleine jusqu'à la fin. Beaucoup de matchs qui vont en prolongation, tir de barrage. Ben, c'est le fun de t'entendre là-dessus. Puis, tu l'as dit, là, ça va comme c'est mené. Puis, tu penses que cette ligue-là, le bon propriétaire, là, le monsieur des Dodgers, là, tu penses que, tu sais, il y a une vision à moyen pas à long terme pour cette ligue-là, là.
Ouais. Lui, c'est un investisseur long terme. Puis, comme on dit, il niaisera pas avec le puck. Là. C'est pas des petits détails. Il va faire sûr que c'est bien fait. Puis, je pense que c'est vraiment bon pour le monde du hockey, ça.
Juste comme ça, une petite parenthèse. Luc, toi, là, qui est établi en Californie depuis si longtemps, là, maniaque de hockey, j'imagine que ça consomme la grande majorité de ton temps, mais t'as-tu un sport numéro 2 qui vient te chercher comme spectateur quand t'aimes ça aller voir des games?
Comme je disais à mes chums, ma star, là, nous autres, on était peints, on fait juste du hockey, parce qu'il faut pas un bel grand chose, je vais te dire. Une fois, vu que je connais Jeannie Bush, je vais essayer d'avoir une game des Lakers par année. On est propriétaire des Galaxy. Fait que j'essaie d'aller voir un ou deux matchs, mais je fais pas bien ben d'autres sports. J'ai pas bien le temps.
As-tu vu la série Winning
une
Time?
Une fois de temps en temps, je vais aller jouer au golf avec mon gars, puis ça, j'aime ça, par exemple.
Ah, mais ça n'a pas de prix. Tu parles de Jeannie Bush, puis tout ça. Je sais pas si tu as regardé la série Winning Time de HBO.
Oui, j'ai regardé ça, ouais.
C'était bon, hein?
Oui, c'était bon. Il y en a un autre ici qu'ils ont fait sur Max qui s'appelait... The Dynasty, je pense. The Legacy. C'est les Lakers aussi. Celui-là aussi est bon.
Très, très bon. Un jour, il n'aura sur la Legacy des Kings de Los Angeles. Une petite parenthèse, presque en terminant, Luc. Bon, évidemment, t'es pas sans savoir que votre visite à Québec pour le camp d'entraînement l'an prochain, du 2 au 6 octobre, ça a fait pas mal jaser. J'ai jamais eu l'occasion de t'en jaser comme tel. Puis, bon, il y a eu un autre, si tu veux, là, ça a beaucoup parlé à fin février quand le monde a réalisé que pour une troisième année de suite, parce que c'est pas au niveau de cette année, vous allez jouer un match à Salt Lake City. Puis là, les gens font des comparaisons. Comment ça se fait qu'ils vont jouer à Salt Lake City pour rien? Puis que là, à Québec, puis là, il y a un Canadien qui est rentré dans la danse en disant, ben nous autres, on irait jouer gratis à Québec. Peux-tu nous dire comment tu vois la différence entre le fait d'aller passer quand même 5 jours, là, du 2 au 6 octobre à Québec, et le fait d'aller jouer un match à Salt Lake City par rapport à la charge financière qui vient avec ça, Luc, pour vous autres, là?
Ben, écoute, premièrement, on va pas nulle part gratuit.
C'est ça qui est ça.
on est allé en Australie, c'était pas gratuit. OK, ça, je te le dis. Puis, ça fait 5 ans, je pense que ça fait 5 ou 6 ans qu'on va à Salt Lake City. Ça fait pas 3 ans.
OK.
Et puis, à chaque année, on se fait payer. On a une très, très grosse bonne fille. La différence, c'est que on part le matin, je pense, je me souviens bien. La plupart des matchs, on part vers 1 h de l'après-midi. On arrive là, on atterrit. Les gars vont à l'aréna, on joue le match, on s'en va. Mais je te dis, moi, j'étais 15 ans. On joue à Vegas, on n'a jamais joué gratuit, on a ramassé une très bonne fille, et puis lorsque Vegas sont arrivés dans la ligue, ça nous prenait une place pour aller jouer, et puis c'est là qu'on est allé à Salt Lake City. Fait que si Vegas, ça fait 5 ans qu'ils sont dans la ligue, c'est ça, ça fait 5 ans qu'on va à Salt Lake City, puis tu sais, chaque équipe de la Ligue nationale, ça fait partie de notre budget de faire des matchs en concours, puis c'était la même chose lorsqu'on est allé à Québec. La seule différence, c'est que lorsqu'on a parlé à Martin Tremblay, à Québécois, nous autres, on s'était fait demander si on pourrait passer une couple de jours pour aider à faire des cliniques et puis aider à développer le monde du hockey. Puis ça a bien tombé parce qu'on fait on était supposé faire la construction de notre aréna. Et puis ça a tombé dans le bon moment. Puis on a demandé à la Ligue nationale si on pourrait commencer la saison dans l'Est. Et puis c'est le même qui est arrivé. C'est la même chose avec chaque place qu'on joue. Inquiète-toi pas.
Ouais. Autrement dit, au-delà là, des enquêtes, puis le monde essaie de savoir comment ça coûtait à Salt Lake. C'est sûr, c'est un soir, tu repars le lendemain matin, c'est pas la même affaire. Et c'est sûr que c'est une business, là, hockey.
On part pas demain matin, on part tout ça après le match.
OK. Fait que, puis Luc, puis je suis convaincu que tu es un fier Québécois. En tout cas, tu nous rends fiers, très certainement, de par ta carrière, puisque tu as fait maintenant comme administrateur, comme président. Puis c'est sûr que cette équipe-là va arriver avec l'idée d'en donner au monde aussi, j'imagine.
Ben oui, nous autres, l'idée d'aller là, c'est comme j'ai plusieurs des alumni qui viennent du Québec. Je parlais justement, on travaille avec Manon Réon, je parlais avec Manon l'autre jour, qu'on va essayer d'appeler les joueurs qui ont joué pour les Kings, que c'est sûr qu'on est chanceux que Simon Gagné est déjà là avec les remparts, puis mais il y en a d'autres qui sont là, j'aimerais ça qu'ils viennent, puis on veut faire des cliniques. On justement, cette semaine, on parlait de ce qu'on va faire le jour du match, le vendredi, lorsqu'on va être là, on aimerait ça faire un super, essayer de ramasser de l'argent, puis impliquer des jeunes, tu sais, le plus de jeunes qu'on peut avoir alentour, ben c'est le fun, tu sais, qu'il ait la chance de voir des joueurs de la Ligue nationale qui viennent de d'autres équipes aussi. Donc, c'est pour ça que pour moi aussi, c'est important. J'ai appelé Ken Neely. J'ai dit, t'es-tu prêt à venir? Parce que, tu sais, c'est une bonne équipe. Puis je sais que le monde ils vont aimer ça venir. On espère que...
Ben oui, Patrice, peut-être.
Parce que, écoute, c'est un joueur spécial. Puis au Québec, c'est un joueur très, 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 très populaire, tu sais.
Ben oui, certainement. Fait que, tu sais, veux pas, vous autres, parce que le monde, tu sais, c'est sûr que, tu sais, ça dépend, tout est dans l'œil de celui qui regarde, là, la vieille expression. Quelqu'un qui veut faire mal paraître la situation va trouver des arguments. Mais vous autres, vous voulez pas juste passer pour des, tu sais, parce que le monde, ils font passer des clubs et sports professionnels comme des gens qui viennent chercher l'argent. Mais comme tu dis, il y a rien de gratis dans ce business-là.
Non, c'est pas pour ça. C'est juste que ça fait partie de notre business, tu sais, Les matchs hors concours, tout ça, ça fait partie de la business. Nos deals de télévision ne sont pas assez gros pour les salaires et tout. Donc, il faut que tu rentres ta business de la bonne façon, puis tu n'as pas le choix, puis c'est des choses qui arrivent. Et puis, mais c'est partout ce qu'on fait. Les instructeurs, ils aiment jouer 6 matchs hors concours, puis les présidents, puis les propriétaires, ils veulent en jouer 8. La raison qu'ils veulent en jouer 8, c'est parce qu'ils peuvent aller chercher un autre gate, comme on dit, tu sais, peut-être sur la route, puis parce que ça fait partie du budget, donc on n'a pas un bien choix, ça fait partie de notre business. Puis nous autres, on regardait, c'est soit qu'on allait en Europe ou bien ailleurs, et puis on a eu la chance d'aller à Québec, puis je pense que ça va être exceptionnel pour nos joueurs d'avoir ça, puis c'est sûr que ça va être en tout et moi, pas juste en tout et moi, je suis du monde qui est bien du monde qui écoute. Tu as des millions de personnes qui t'écoutent.
Oui, monsieur,
c'est
rien
bon pour
de
le moins. Québec, c'est bon pour le Québec, tu sais. Je sais que ça parle toujours de l'équipe-là. Puis c'est des bonnes choses. C'est des choses qui aident.
C'est bon d'entretenir le marché puis de laisser continuer de miroiter que c'est une bonne place pour de la meilleure ligue au monde. C'est un peu ça que tu me dis.
La province de Québec, on a tous grandi que le hockey, c'est les Canadiens, le hockey, ça fait partie de notre vie. Donc, c'est spécial toujours d'avoir des matchs que tu peux amener d'autres équipes puis montrer que les choses, c'est différent, tu sais. Tellement que je regarde ça.
Toi, en venant puis en décidant comme président d'amener ton club ici, as-tu l'impression que tu contribues à ça aussi un peu, à entretenir le nom de Québec? Tu sais, si un jour il y a une autre expansion puis Québec postule, tu penses, tu sais, tu le vois-tu comme ça un peu?
Tout
c'est
le
comme.
Temps.
Oui?
Tout le temps. Je sais pas que j'ai une chance. Même, c'est pour ça que souvent, vous autres, tu sais, mettons, du monde du Québec qui m'appelle pour faire des interviews, j'aime ça les faire juste parce que je pense que c'est important qu'on. On continue il n'y a pas juste une équipe dans les nationales, tu sais, il y a beaucoup d'autres choses, puis je pense que c'est important que le monde y entende de toutes nous autres, les Québécois, puis lorsqu'on a une chance de peut-être faire quelque chose qui peut aider le Québec, ben, je pense qu'il faut être là, puis il faut le faire.
Ben Luc, moi je te remercie, j'ai été privilégié de faire plusieurs entrevues avec toi au fil des ans, puis je te l'ai dit, tu nous rends fiers, puis j'avoue que tu sais quand je vois un gars comme toi, comme Martin Brodeur avec les Devils, comme Daniel Brière avec qui on va parler tout à l'heure avec les Flyers, puis tu sais, j'y nommerai pas toutes là, mais c'est le fun de voir ça, puis c'est le fun la manière que tu nous dis que tu vois ça. Moi ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. Tu l'as toujours fait comme un champion, comme aurait dit Renan Gélil. Vraiment. Je te remercie beaucoup.
Okay.
Merci, Luc.
Merci. Bonne soirée.
Bonne soirée. À très bientôt. Puis on a bien hâte d'être là. On va aller faire nos émissions quand vous allez descendre, c'est sûr.
Parfait. On va être là.
All right,
Luc. Merci à Danny de ma part.
Bien, certainement. Okay, bye-bye, Luc. Merci beaucoup.
Okay, bye.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Les Flyers affrontent le Canadien de Montréal demain. Les Flyers sont déjà en ville, tout comme leur directeur général, notre ami Daniel Brière. Salut Daniel!
Salut Mario!
Comment ça va? Ton club en pleine lutte pour les séries, c'était-tu au programme de ton année 23-24, ça?
Écoute, on espérait jouer des matchs importants en fin de saison. On espérait jouer des matchs où il y aurait une certaine importance pour faire les séries éliminatoires, d'être à l'intérieur de ce groupe de 8 équipes-là. Je te dirais que c'était peut-être un peu inespéré en début de saison. Mais écoute, on est content d'être là. On n'est pas garanti de faire les séries parce que c'est extrêmement serré, mais c'est bon pour l'expérience pour nos jeunes joueurs.
As-tu l'impression, Daniel, que vous le faites au détriment du développement? T'sais, tu t'es-tu posé des questions par rapport à ça de certains joueurs de vouloir gagner à tout prix? Parce que ça fait partie des discussions qu'on a à Montréal autour du Canadien. Fait que je suis curieux de savoir, toi, comment tu le vois avec les Flyers?
Ben écoute, nous autres, on a continué à développer nos jeunes joueurs. On a fait des échanges qui nous ont nui à la date limite des échanges, qu'on savait très bien que c'était pas pour être à notre avantage, mais que on pensait au futur. On sait très bien qu'on a pas une équipe, je te dirais, qui va aspirer à gagner une Coupe Stanley dès cette année. Mais l'expérience qu'on est en train d'acquérir en ce moment, c'est fabuleux. C'est nos jeunes joueurs qui nous amènent beaucoup, qui font probablement une très, très grosse différence. C'est sûr que le retour de Sean Couturier et Cam Atkinson nous ont beaucoup aidés, surtout en première moitié de saison. Mais les derniers temps, nos jeunes joueurs font une très, très grande différence de ce côté-là. Fait que c'est pour ça qu'on est confortable d'être où ce qu'on est en ce moment, puis de donner la chance à nos jeunes joueurs de jouer de grosses minutes là, soir après soir, pour essayer d'entrer en série.
Parce que t'es un jeune club, Daniel, je regarde ça. Là. Tu sais, Nicolas, c'est ton vétéran, Nicolas Deslauriers, 32 ans. Écoute, Scott Laughton, j'espère que j'ai les bonnes dates, là, parce que des fois, c'est pas tout le temps un jour, hein, 29, mais tu sais, t'as pas ben de gars dans la trentaine, à part Sean puis Nicolas Deslauriers, puis Sean Couturier, Harry. Ah, t'as Mark Stahl. Mark, il joue-tu sur le base? Oui.
Non, ben c'est ça. Mark Stahl n'a pas joué là, les derniers matchs. Il est toujours dans l'entourage de l'équipe. Il est là justement pour aider nos jeunes joueurs. Lui et Eric Johnson, qu'on a amené à la date limite des échanges pour amener un peu d'expérience de ce côté-là. Mais à part là, ces deux joueurs-là, Nicolas Deslauriers, on est extrêmement jeunes. Puis ce qui est le fun dans tout ça, c'est que c'est vraiment le développement des joueurs comme Tippett, Frost, Forster, Brink à l'attaque. Un gars comme Cam York a pris un très, très gros pas vers l'avant cette saison. Même Zamula. Puis on a deux jeunes aussi, là, Hatter et Guinning, qui viennent juste de commencer à la défensive dans la Ligue nationale. Fait que, c'est le fun de voir ça. Puis dans le filet, écoute, Sam Ersson qui a été mis dans une situation difficile quand Carter est parti. On lui a donné le filet. On espérait pour le mieux, puis il a répondu encore plus aux attentes qu'on s'attendait.
Oui, parce que c'est étrange. Tu sais, même quand tu n'étais pas de retour dans l'organisation, Daniel, combien d'années les Flyers n'étaient pas dans le coup à cause de problèmes devant le filet. Puis cette année, on aurait pu dire que c'est une autre année qui s'inscrivait dans la même trame narrative avec le départ de Carter Hart. Puis malgré tout, je pense aussi avec une structure défensive beaucoup plus solide. Hein? J'ai l'impression que l'engagement défensif, c'est pas négociable avec Torts. Hein? Fait que ça doit aider aussi, là.
Ouais, ça protège le gardien, malgré que les derniers matchs, les derniers temps, ça a été un peu plus difficile défensivement. Mais on continue à s'améliorer de ce côté-là. Quand tu as des jeunes joueurs ou des jeunes défenseurs comme on a en ce moment, des fois ça c'est difficile quand tu affrontes des équipes comme Toronto, la Floride. On était à New York hier soir. Fait qu'il y a des soirées un peu plus pénibles, mais ça fait partie de notre développement, puis on comprend ça.
Bon, tu as parlé de Sean tout à l'heure. Est-ce que ça a été un bon test pour votre équipe et votre état-major, la décision de Torts de mettre Sean Couturier, votre capitaine, de côté pour deux matchs de suite?
Ouais, écoute, c'est quelque chose qui fait des vagues, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça a été difficile pour Sean. Mais tu sais, le côté que je retiens, c'est le professionnalisme de Sean Couturier, le leader qu'il est. C'est sûr qu'il était pas content, mais il comprenait, il voulait faire partie de la solution pour le futur. Il voulait essayer de causer le moins de vagues possible à travers tout ça. Encore une fois, très, très impressionné de la façon dont Sean a répondu, comment il est revenu, il a bien joué les derniers matchs qui étaient dans l'alignement, même s'il était peut-être pas de retour à jouer 20-22 minutes comme il était habitué en début de saison. Mais il nous a aidé. Il amène beaucoup à tous les départements. Fait que je écoute, je suis très, très content. C'est sûr qu'on espère le retour de Sean Couturier comme il l'était en première moitié de saison. Mais j'ai pas de doute que avant longtemps, ça va revenir. Puis j'ai pas de doute que l'an prochain, Sean Couturier va être le même Sean Couturier qu'on a eu en première moitié de saison.
Parce que vu de l'extérieur, puis bon, je sais que le but, c'est pas de faire une grosse histoire avec ça. Jordan Tortorella lui a pas voulu donner de détails, disait c'est entre lui puis le joueur. Mais tu sais, de l'extérieur, ce qui sonnait un peu bizarre, puis même de l'intérieur, j'imagine, Daniel, tu sais, tu donnes le lycée à un gars, puis une couple de semaines après, tu le mets de côté. Fait que, me semble, ça allait pas ensemble, tu sais.
Ouais, c'est ça, ça fit pas d'un côté comme de l'autre. Mais écoute, c'est John Tortorella. Il traite tous ses joueurs de la même façon. Ça a été un peu plus difficile pour Sean les derniers temps. Puis il pensait que en ce moment, c'était de donner la chance à quelqu'un d'autre, lui donner un peu de repos, puis que ça devrait nous aider là pour finir la saison.
OK. Qu'est-ce qui est plus difficile dans son jeu à Sean, si on parle juste de son jeu là au premier degré, là, entre son retour au jeu, ça s'est bien passé, puis bon, il a ralenti par la suite?
Ouais, ben c'est ça. Si tu regardes du côté des statistiques, je pense qu'il y avait un but à ses 25 derniers matchs. Les choses cliquaient pas pour lui. Mais tu sais, pour moi, j'ai pas de peur de ce côté-là. Il a été bon en première moitié de saison. Il avait pas joué pendant 2 ans. Puis des fois, écoute, faut réaliser que c'est pas facile. Là. Tu manques du hockey pendant 2 ans. Hey. Puis qu'il est revenu au jeu cette saison. Il jouait 20-22 minutes par match.
Sur l'adrénaline.
Sur l'avantage. Le désavantage, les gros face-offs, écoute, on lui a demandé beaucoup. C'est sûr. Là, c'est juste lui donner la chance de prendre un petit souffle pour finir en force.
As-tu regardé le Canadien un petit peu dernièrement, Daniel? Tu sais-tu à quel genre d'équipe t'as affaire demain? Belle victoire pour l'équipe de Martin Saint-Louis hier au Colorado, en tout cas.
Oui, c'est ça, j'ai vu. Je sais qu'ils reviennent d'un voyage dans l'Ouest, une grosse victoire au Colorado, une équipe qui roulait, qui allait très, très bien. Fait que c'est assez impressionnant de ce côté-là. Pour nous autres, les matchs sont gros, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ça fait peur quand d'affronter des équipes qui jouent où il n'y a pas de pression. Puis les joueurs sont lousses. Je sais que les jeunes joueurs vont bien dernièrement du côté du Canadien. Fait que c'est ça. C'est des matchs qui font peur.
Jusqu'à quel point ça a été une décision comme facile ou pas si facile à prendre de laisser aller ton défenseur Sean Walker à la date limite des transactions? Tu y as fait allusion plus tôt dans l'entretien, mais tu sais, en pensant à l'immédiat, tes chances d'insérer, puis au retour aussi. Fait que, tu sais, comment t'as tranché, puis difficile ou pas tant que ça?
Donc, ça a été très, très difficile parce que, écoute, on voyait très bien, on savait, on était en séries éliminatoires où on faisait partie là, de l'équipe des 8 dans la conférence. Puis on savait très bien qu'en se départant d'un gars comme Sean Walker, qui faisait partie de notre top 4, qui était peut-être notre 3e meilleur défenseur, que ça nous ferait mal. On savait très, très bien. Mais en même temps, on est compétitif, hein. Tu regardes ça, on veut gagner. Ça faisait mal de laisser aller un gars comme ça, qui était très, très bon dans le vestiaire aussi. Mais on essaie de penser au futur, essayer de bâtir une équipe qui va être compétitive, pas juste cette année, mais pour plusieurs années à venir. Puis on s'était dit, si on était capable d'aller chercher un choix de première ronde, que pour nous autres, on pouvait pas passer à côté de ça dans le timeline où on est là présentement avec notre équipe.
Bon, je suis parti en vacances le 7, fait que j'ai pas animé ce soir-là, mais je t'ai regardé quand même à l'œuvre, puis je sais que tu avais dit que tu voulais absolument, ou que ça se disait dans le marché, que tu voulais un première ronde, mais il a fallu que tu tricotes un peu pour aller chercher le premier ronde, parce que d'autres transactions avaient changé peut-être un peu les valeurs des actifs disponibles sur le marché. Daniel, je me trompe?
Non, pas du tout. T'as entièrement raison. On s'attendait à ce qu'un choix de première ronde arrive beaucoup plus facilement dans le cas de Sean Walker. Il y a d'autres échanges qui se sont faits qui ont changé un peu la valeur des défenseurs. Il y en avait plusieurs de disponibles. Puis c'est ça. Le choix de première ronde tardait à venir. Écoute, on est chanceux aussi, on a le support de nos propriétaires du côté des Flyers, puis ils nous ont laissé aller chercher ou prendre un mauvais contrat sous nos bras pour être capable là, de fermer avec un choix de première ronde. Fait que c'est ça, on a pris un peu avantage de ça. On est très, très chanceux d'avoir des propriétaires là, qui nous ont donné cette chance-là.
En terminant comme DG, comment tu as trouvé ça de vivre là, en position de prendre des décisions? Ton premier trade deadline, ta première période limite des transactions, tu vas avoir un autre gros été, mais je veux dire, dans tes expériences que tu accumules là, dans ta première année comme DG, c'était une première. As-tu trouvé ça spécial? C'était-tu un thrill?
Oui, j'ai adoré ça. C'était mon premier comme directeur gérant. Les dernières années, j'ai fait partie d'un peu des décisions.
Du comité.
C'est pas moi qui avait la décision finale. J'ai adoré ça. C'était le fun. Puis j'ai adoré l'esprit d'équipe. On a inclus là tous nos différents départements dans ça. J'ai essayé d'inclure le plus de personnes possible. Ça a été fantastique. Moi, j'ai adoré l'expérience. Puis c'est important pour moi. J'espère que les gens qui travaillent autour de la table avec nous ont senti la même chose. Mais c'était assez spécial.
Ben j'imagine. Daniel, je te prends pas plus de ton temps. Je te remercie beaucoup d'avoir été disponible pour nous alors que tu as bien des amis, j'imagine, à revoir quand tu passes faire un tour à Montréal. Au plaisir de te voir demain en personne au Centre Bell.
J'espère bien,
c'est sûr. T'es mieux de passer du bon bord de la passerelle, sinon je vais te ramasser dans le coin.
Salut. Je vais garder la tête haute.
Oui, tu fais ça. Salut Daniel, bye bye, merci beaucoup.
Bye bye.
Bonne fin de soirée. Daniel Vrière, directeur général des Flyers de Philadelphie. On revient dans un instant.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
André Tourigny est avec nous, le coach des Coyotes de l'Arizona. Salut André.
Salut Mario, comment ça va?
Ça va très très bien toi-même André?
Ça va très bien.
Quelle joie t'anime quand tu vois un je sais pas si il y a du bruit pas mal autour, André. J'espère qu'on t'entend. On l'entend bien, oui. OK, parfait. Je sais pas quelle joie t'anime quand un jeune comme ça réussit. C'est pas juste en marquant des buts que tu réussis, là, mais que recommence sa carrière de la façon dont Josh Downe l'a fait hier.
C'est sûr que c'est spécial. Écoute, pas juste. Il faut être honnête que c'est pas juste un joueur comme les autres. Là. C'est le gars Shane Doan qui est la plus grande légende dans l'histoire des Coyotes, qui est une personne extraordinaire, qui est un ami de tout le monde à l'intérieur de l'organisation, qui est impliqué dans la communauté. C'est beaucoup de choses. Puis que ça commence de cette façon-là, que Josh y a gagné sa place, qui est gagné sa place en allant dans la ligne américaine, puis tout ça. Puis que là, il performe comme ça son premier match, je pense que c'est un conte de fées.
Ben, je comprends donc que c'est un conte de fées, ça te procure. C'est des belles émotions pour toute l'organisation. Puis aussi le fait, je sais pas pour la région, quelle fierté on a, à savoir que c'est un gars qui a grandi dans la région également. Donc, c'est pas un gars, tu sais, que parce que la plupart du temps, il n'a pas bien qu'ils sont sortis de là, il y a Austin, mais puis j'imagine qu'il va y en avoir de plus en plus, mais cet aspect-là de l'histoire, c'est pas banal non plus pour vous autres.
Non, c'est pas banal. Il était développé ici dans le sens qu'il a, à partir du moment qu'il était drafté, il a joué à l'université ici en Arizona. Ensuite de ça, il a joué dans la Ligue américaine ici en Arizona. Et là, il joue dans la Ligue nationale ici en Arizona. Donc, c'est unique. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Et il y en a-tu pas mal? À ta connaissance, je sais que tu as d'autres choses à t'occuper, là, mais tu as entendu parler du fait que tu peux pas produire deux talents de même, un premier round overall puis un deuxième round sans qu'il y en ait d'autres autour un peu?
Il y a Mathieu Nice aussi qui est avec
c'est vrai, tour, là, qui, c'est vrai.
C'est le grand chum à Josh. Ils ont grandi ensemble, ils ont joué ensemble. Fait que c'est spécial. Mais Tate Thompson, c'est un gars d'ici. Il y en a de plus en plus. Là. J'en oublie, mais il y en a. Hier, on faisait la liste. Là. Il y en a plus qu'on pense. Là. Il y a beaucoup de ceux-là, c'est des gars comme George Jones qui le père a joué dans la Ligue nationale. Puis, exemple, Sean Couturier, il est né ici.
Oui.
Tu ne devrais pas dire que c'est un produit de l'Arizona. Là.
Non, je comprends.
C'est quand même un gars qui est né ici. Fait qu'il y en a de plus en plus.
Dis-moi, quand on a réalisé que Shane Doan est rendu, a travaillé pour vous autres, le père, il était là hier, des beaux moments pour lui, mais il travaille avec les Leafs de Toronto. Je ne sais pas si tu en as parlé avec lui personnellement. Y a-tu quitté l'organisation pour donner de l'air à son fils?
Non, ça ne faisait pas. Je pense pas que ça faisait partie de l'équation à ce moment-là. Josh a commencé avec l'organisation. Il jouait dans la Ligue américaine l'année passée. Puis Shane est parti cet été. Donc, c'était déjà processus était déjà fait. C'est une opportunité. Brad Treliving puis Josh, ils ont une relation depuis que Brad il est assistant GM ici à Phoenix. Puis ils ont une relation personnelle depuis ce temps-là. Donc, quand Brad a eu la job à Toronto, il a demandé à Shane d'y aller avec. Puis, c'est un match naturel.
Ouais. Comment ça va? Avez-vous le portrait, toi puis ton directeur général, de ce que vous allez avoir comme équipe l'an prochain? Je sais que vous voulez finir ça la tête haute cette année, les meilleures performances possibles, mais t'as-tu déjà comme une idée de ce que tu vas avoir sous la main l'an prochain, André? Ou beaucoup de points d'interrogation?
On a beaucoup de points d'interrogation. Il y a beaucoup de décisions, un peu comme dans toutes les clubs nationales, qui vont devoir être prises cet été. Donc, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Tous nos défenseurs sont à renégocier le contrat. Il y en a qui sont agents libres avec compensation, là, restricted free agent, mais on a beaucoup de unrestricted free agent aussi. Donc, il va y avoir beaucoup de changements, spécialement dans la brigade défensive. En attaque, ça devrait se ressembler.
Demain, vous affrontez, je pense qu'on pourrait dire que les Prédateurs, c'est pas mal l'équipe de l'heure. Là. Je ne sais pas si tu en as un autre dans la conversation comme équipe de l'heure. Là.
Non. C'est vraiment l'équipe de l'heure. Écoute, ils sont 16-0-2 dans le 18 dernier.
Comment tu t'expliques ça quand ça part d'un bord ou ça part sur l'autre? Tu le sais, vous êtes parti sur l'autre, vous autres, c'est pis, t'sais, pas rien que vous. Los Angeles l'a vécu, je parlais avec Luc Robitaille tout à l'heure, on va présenter ça. Eux autres aussi ont eu une séquence négative. Puis as-tu une explication autant dans le positif négatif quand ça part sur un bord?
Mais c'est une grosse question de confiance pour les joueurs. Pis c'est difficile à ramener. Écoute, peu importe ce qu'on faisait, on n'était pas capable de gagner. T'sais, la game, par exemple, à Montréal, jusqu'à... On a bien joué, on a dominé sur beaucoup d'aspects dans le match, mais on n'était pas capable de marquer le but qui faisait mal ou d'avoir l'arrêt qui au bon moment. Fait que ça s'enchaîne, puis là, ça te rentre dans la tête, puis là, t'es plus capable d'arrêter l'avalanche.
Ouais. Quand tu regardes les Prédateurs, on en a parlé brièvement la semaine passée, parce qu'ils étaient déjà, c'est une séquence qui a été amorcée il y a plusieurs semaines, mais si tu regardes leur alignement, c'est-tu tant une équipe sur... T'es-tu surpris? En tout cas, ils continuent d'avancer. Je sais que la semaine passée, t'étais entre les deux en tête surpris, puis ils ont pas un méchant line-up non plus, là.
Tu parles des
Prédateurs.
Des Prédateurs. Non, il y a un bon line-up, mais ça reste que, tu sais, un gars comme Nyquist, il y a une saison extraordinaire. Il y a des gars qui, à début de saison, exemple, des Luke Shen ou des Tyson Barry, il y avait pas une grosse saison. Ils ont un départ lent, fait qu'à un moment donné, peut-être que tu t'endors sur ces équipes-là, puis là, la façon qu'ils jouent en deuxième moitié de saison, là, c'est... absolument
extraordinaire. Puis même si les gars vieillissent, des fois, tu un gars comme Ryan O'Reilly, là, c'est capable de jouer au hockey encore, là. Tu sais, je sais que ça a été souvent un étalon de mesure. Quand tu m'as comparé des joueurs au fil des ans, je me rappelle même que tu avais fait une comparaison entre Nick Suzuki il y a plusieurs années et Ryan O'Reilly dans le style de joueur. C'est encore un gars qui peut faire la différence à sa façon.
C'est encore un gars qui fait la différence. Aucun doute là-dessus pour moi. C'est un gars qui amène une dimension à ton équipe. C'est un gars qui est tellement bon défensivement, tellement bon ses face-off. C'est un gars qui travaille tellement fort, sur et hors glace et à tous les jours. Parce qu'il amène un élément à ton club qui est indéniable.
Ouais.
Roman... C'est un leadership qui est extraordinaire.
Ben, j'imagine.
Ton leadership est extraordinaire.
Disais qu'à un moment donné, il y avait mauvaise presse, ce gars-là, André, tu te rappelles?
Oui, mais tu sais, c'est toujours le piège un petit peu, parce que quand t'es un jeune homme à l'âge que Ryan avait à ce moment-là, puis tu fais des bons salaires, etc., puis t'es pas marié, t'as pas d'enfant, t'as pas ci, t'as pas ça, je connais pas bien du monde là, qui écoute là, présentement, là, puis si tu lui donnais 3 millions par année, là, puis ils ont 18, 19, 20, 21 ans, qu'ils seraient tous sages comme des images. Que, moi, j'ai toujours dit que c'est de normal à un moment donné. Quand j'avais 20, 21, 22, 23, là, j'aimais ça sortir avec mes chums, aller prendre un verre, etc., etc. Là, je me couchais pas à 8 heures le soir. Fait que, tu sais, je faisais pas 2 millions par année, pour dire ça tout de suite. Fait que, tu sais, c'est normal que ces gars-là, à un moment donné, sont vus, tout le monde les voit maintenant avec les réseaux sociaux, ça prend des photos, c'est une réputation, c'est facile à partir, etc., etc. Fait que, je pense pas que Ryan O'Reilly, moi, je l'ai eu, il était jeune quand on était au Colorado. Ça a toujours été une bonne personne, ça a toujours été. On n'a jamais eu de problème avec lui d'aucune façon. Puis quand les rumeurs ont commencé, parce que là, il y en a un qui l'a vu à 2 heures du matin à telle place, ben ouais, mais là, À 22 ans, là, tu m'as vu à 2 heures du matin, ben des places. Là, là, fait que, tu sais, fait que, mais les réputations partent très rapidement.
C'est drôle que tu dises ça. Puis des fois, ça prend pas grand-chose dans la perception pour l'alimenter, mais ça m'arrive souvent de me dire, quand je jase avec des gens qui, tu sais, on parle de hockey, je parle pas en ondes, tu sais, avec du monde, des fois qu'on voit dans des soupers, peu importe. Puis, tu sais, je pose souvent la question, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous autres, à cet âge-là, avec des millions dans les poches, avec une file de partisans, tu deviens plus cute tout d'un coup aussi. Tu sais, il y a bien des affaires à gérer. Ouais, ouais. Puis il y a pas grand monde qui a une réponse de fin finaux à cette question-là, André, là. Il y a pas, ben, tu sais.
C'est la même affaire que dans un livre. Tu peux dire c'est quoi que le mode d'emploi, mais quand t'arrives pour le mettre en action, le mode d'emploi, là, c'est pas toujours évident. Fait que, tu sais, c'est facile de dire, ah, faut que les jeunes soient sérieux, faut qu'ils soient disciplinés, faut qu'ils soient, oh, vous avez toute raison. Mais quand t'arrives dans la vie, là, tout le monde a des hormones, mais tout le monde a le goût d'avoir du plaisir, puis tout le monde veut une vie sociale. Puis là, des fois, il y a des erreurs qui se font, puis c'est là que des réputations commencent.
André, quand tu bats des bonnes équipes, je sais pas si des fois t'entends des gens dire « Ouais, mais on le sait bien, ils vous ont pris à légère, puis vous en avez profité, puis etc. » Puis je fais un comparable avec peut-être ce que le Canadien, des fois, dont ce qu'on peut peut-être dire. Tu sais, c'est quelle valeur accordes-tu aux victoires que tu récoltes avec ton équipe contre des bonnes équipes, comme le Canadien contre l'Avalanche du Colorado hier?
Ben, c'est... Moi, je pense que faut que tu donnes crédit aux Canadiens. Ils sont arrivés préparés, ils ont joué un bon match. C'est là, ça me fait toujours rire, spécialement des deux années passées, quand que toute fois qu'on gagnait une bonne game, c'était eux autres qui avaient mal joué.
Oui.
C'est correct, là. Je comprends que, regarde...
Ça doit taper ses nerfs, hein?
Je suis pas en train de dire que l'Avalanche et le Canadien sont au même niveau, sauf qu'à un moment donné, il faut donner un peu de crédit à l'adversaire. Nous autres, on n'a pas joué de la bonne façon, mais eux autres, ils ont vraiment bien joué. Ça se dit, ça. T'sais, à un moment donné, ça peut pas être juste... ton équipe qui a bien ou qui a pas bien joué, tu sais, à un moment donné, l'adversaire a un facteur là-dedans, tu sais. Ça se peut que t'aies commencé le match pas très fort, puis que l'autre équipe joue pas bien, puis que t'es capable de revenir dans le game. L'inverse est aussi vrai, que t'as commencé le match pas trop fort, puis l'autre équipe, ils ont très bien joué, puis ils t'ont pas donné la chance de revenir dans le game. Fait que je pense que c'est les deux équipes sont un facteur, là.
Je sais pas, André, si t'as assez vu de Slavkovski cette année à travers, évidemment, le fait que tu diriges ton équipe pour te faire une opinion. Il est devenu, là, écoute, la recrue ou le gars ayant ramassé. Il y en a eu des joueurs dans l'histoire du Canadien de Montréal, là, la recrue ayant récolté le plus de points avant l'âge de 20 ans, atteignant le plateau des 40. Ça a commencé tranquille. Je pense qu'il y avait 7 points rendus à mi-décembre. Puis là, ben, il s'est mis en marche. Je sais pas si tu peux me donner ton appréciation de ce que le jeune homme est en train de réaliser à sa deuxième année. Puis il a manqué toute l'année presque. La moitié d'année l'an passé?
Ben, écoute, je pense que c'est un premier choix total. Le talent est là. Il l'a fait aux Olympiques. Il l'a fait aux championnats du monde. C'est à Montréal plus qu'ailleurs. Ils sont jugés très rapidement, très sévèrement. Je regardais là, ses réseaux sociaux. Là, le premier choix de cette année, là, Ron Backer, ou
oui.
N'importe quoi son nom.
Oui, Ron Backer, oui.
Il a pas joué une game encore avec le Rocket que le monde le jugeait. Ah ouais, c'est parce que attendez un peu, là. Vous l'avez même pas vu jouer. Fait que ça, c'est avant qu'il joue. Fait que c'est la beauté d'un marché passionné comme Montréal, mais c'est aussi le danger.
Ouais, vraiment. En tout cas, moi, je suis pas mal emballé de ce que je vois de ce jeune homme-là. Puis je serais bien embêté de dire quel est son plafond. Puis le temps nous le dira bien assez vite. Un dernier mot en terminant sur. Es-tu surpris de l'année de Jonathan Drouin avec l'Avalanche? Tu sais, ça a pas parti. Il est pas sorti des blocs en partant. Là, tu sais, il y a eu des petites montagnes russes, mais en tout cas, il y a eu quelques bonnes séquences, dont celle qu'il vit récemment, dont une grosse performance dans le match de dimanche après-midi dans le comeback de l'équipe. Mais es-tu surpris qu'il ait pu se replacer?
Tu sais, moi, Mario, je vais répondre à ça. Je suis surpris qu'il n'ait pas toujours été comme ça. Dans le sens que moi, je suis peut-être un des plus grands fans de Jonathan Drouin. Quand il était à Halifax, sa passion, sa drive, il était cocky de la bonne façon. Il était dur à jouer contre. Il était compétitif. Tu sais, il était comme il est cette année. Puis ça, je suis content pour lui parce que j'ai eu la chance de le coacher, Joe, au championnat du monde. Je suis grand. C'est un petit gars que j'aime bien gros. Il y a eu des épisodes personnels, etc. Puis là, de le voir performer comme ça, c'est toute beauté. Je suis bien content pour lui. Fait que, ça va mieux.
J'adore ta réponse. En terminant, André, je sais pas si, bon, je suis pas sûr que c'est confirmé, mais coach de l'équipe Canada au championnat du monde junior, ça serait un défi certainement intéressant. Est-ce que tu peux en parler? Y a-tu des discussions à cet effet? Je sais que c'est sorti là, comme une rumeur, là.
Ouais, c'est ça. Les rumeurs, là, j'essaie de pas les commenter parce que ça va aller dans toutes les directions.
OK. Non, je comprends ça. Mais en tout cas, je pense que ça serait tout à fait logique. Et en terminant, si t'étais le DG d'Équipe Canada, toi, un gars qui est allé dans les Caraïbes une année après une année parce qu'il était fatigué, tu tiens-tu ça en considération quand vient le temps de faire ton équipe?
Définitivement. C'est normal. Voyons, c'est le commitment. Puis là, ça dépend. Là, ça peut être pris hors contexte, la réponse, dans le sens que ça dépend de. Il y a des joueurs, exemple, qui sont blessés, qui ont, exemple, qui ont traîné une blessure à laine les trois derniers mois. Quand tu arrives à la fin de l'année, là, puis là, tu t'en vas au championnat mondial. Là, tu veux récupérer ton âne pour pouvoir recommencer ton entraînement de la bonne façon dans 4-5 semaines d'ici. Là, si tu vas au championnat mondial, là, tu vas traîner ça encore, puis là, mais que tu reviennes, il va falloir que tu prennes ton 4 semaines de break, etc., etc. Fait que là, tu pars, puis tu t'en vas dans les Caraïbes, parce que là, que tu passes à Brassard, là, t'es les 3, 4, 5 semaines de rehab ou que t'es pas dans un carrière, c'est la même affaire. Là, le monde joue. Ah, oh, ouais, mais là, il est en bateau, puis il prend pas ça sérieusement. Voyons donc, ça n'a pas de sens. C'est ça. C'est du cas par cas. C'est le gars qui est en pleine santé, puis que lui, il dit, non, ça me tente pas. Tenez, c'est une longue saison. Là, tu te dis, ouais. Ce sera pas moins long, là, mais qu'on soit aux Olympiques, là. Tu vas avoir le Four Nations, puis après ça, il va avoir la saison, puis après ça, on s'en va aux Olympiques. C'est une grind, là. Moi, Quand je suis au World Junior, là, puis au championnat du monde, là, c'est long, là, c'est 5 semaines. Quand tu arrives à la fin, là, c'est long. T'as hâte de voir ta famille, t'as hâte de. Tu sais, c'est 5 semaines sur le hedge tout le temps, t'es à l'extérieur, dans ta chambre d'hôtel, t'es pas chez vous. C'est long. Fait quand tu arrives à la fin, ça prend des gars qui sont motivés puis qui mm-hmm. cherchent pas de raison pour arrêter, là, ils cherchent une raison pour continuer. Fait que. Ça compte. Pour moi, ça compte. Un joueur passionné, qui ne veut pas des joueurs qui sont passionnés?
Absolument. Et c'est oui. Et c'est drôle parce que je pense à la situation de Nick Suzuki qui l'an passé n'est pas allé, mais tu sais, il rate jamais de match. Puis des fois, il y a peut-être des bobos cachés, je ne sais pas. Mais on se posait la question par rapport à lui. Mais oui, j'adhère complètement à ta philosophie. André, un gros merci. Je te souhaite une.
L'autre affaire,
oui, vas-y.
Là, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu y ailles à tous les ans non plus. Là.
OK.
Ça se peut que tu sautes ton tour à un moment donné. Tu sais, le gars qui est. T'sais, exemple, je sais pas, moi, il y a des gars qui viennent là, deux puis trois fois, là, puis là, la quatrième fois, ils disent non, mais là, tu dis pas, ah, là, il a perdu sa passion. Mais non, c'est parce que ça se peut que, pour des raisons familiales, ça se peut qu'il rénove sa maison. Ça se peut qu'il y ait bien des affaires, bien des raisons. Puis, regarde, c'est pas une obligation, là, t'as pas besoin. Tu sais, il y en a pas beaucoup des Ryan Smith qui ont été, je sais pas combien de fois, là.
Ouais.
À un moment donné, c'est correct, là. T'sais, Sidney Crosby, il n'y a pas besoin de venir à tous les ans pour qu'on dise que le drapeau du Canada t'a tatoué sur le cœur. On sait qu'il l'a, là. C'est pas parce qu'il dit non une fois qu'il est dans le champ. Là.
On pourrait appeler ça le gros bon sens, je pense, hein?
Exact, c'est ça.
Exact. André, un gros merci. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Bye bye.
À bientôt. Bye bye.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Touché!
Pour les fidèles du sport.
C'est le moment d'accueillir Antoine Roussel pour casser la glace à l'émission de ce soir. Bien, bonsoir mon Antoine, comment ça va?
Bonsoir Mario, écoute, ça va très bien. Je sors d'une semaine de grippe.
Ben oui.
Et je renais de mes cendres, si je peux dire.
Bon, mais on va profiter de toi un peu plus d'abord cette semaine, Antoine. Qu'est-ce que t'as pensé? Puis t'avais, j'imagine, l'énergie pour veiller tard hier. Puis surtout que le match nous a tenus en haleine. Fallait pas manquer la première minute, par exemple, hier, hein?
Non, absolument. Et c'est la seule ombrage au tableau, selon moi, du Canadien hier, en termes de défensive, et on va y aller un petit peu plus loin. Pour moi, les défenseurs Kaden Goulet et puis Matheson, hier soir, ont eu quasiment un tableau parfait, parce qu'ils ont affronté le trio de Nathan MacKinnon, à toutes les présences, ou presque. Et ils ont réussi avec brio leur pari, sauf malgré cette petite première minute où ils ont été un petit peu malchanceux, où les attaquants et tout le monde ont un peu triché vers l'offensive. Et c'est une équipe où tu ne peux pas tricher contre, parce qu'ils peuvent te faire mal très rapidement, et c'est ça qui est arrivé dans la première minute. Donc, non, j'ai aimé la performance du Canadien, j'ai aimé la performance de ces deux défenseurs-là, et j'entrevois l'avenir vraiment d'une manière différente, parce qu'au début, je les voyais pas vraiment jouer ensemble d'une manière régulière, parce que je suis pas un grand fan de gaucher-gaucher en termes de défenseur. J'aime ça avoir un gaucher, un droitier, okay, parce que pour toutes sortes de raisons, pour les sorties de zone et tout ça, mais on dirait que plus ils jouent ensemble, meilleur ils le deviennent aussi également ensemble, et ils sont capables de bien jouer et de s'alimenter comme ça. Donc pour moi, je ravale mes paroles, mais je change un petit peu de position, puis je me laisse un petit peu amadouer par cette formule-là.
Et je ne sais pas si c'est une formule à long terme, mais c'est sûr que quand tu as deux gars de bon calibre, bon, bien qu'ils tiennent leur bâton du même côté, puis c'est peut-être un désavantage sur certains aspects quand tu veux garder le jeu en zone adverse, puis t'es pas sur ton bord, t'es sur ton revers, ça peut être compliqué en zone défensive également. Tu sais, puis Goulet, je ne sais pas s'il va jouer hors l'aile ou hors position toute sa carrière, mais à un moment donné, c'est que si tu veux garder les six meilleurs défenseurs que tu auras dans ton pipeline d'ici quelques années, puis qui sont pas tous trois gauchers, trois droitiers, ben c'est bon d'en avoir un que tu peux bouger.
Ah, c'est clair. Puis avoir cette option, cet aspect-là de son jeu qu'on sait qu'il est capable de le faire, ben c'est un grand atout pour lui, parce que finalement il peut gagner d'énormes minutes contre des trios adverses vraiment redoutables. Puis on l'a vu hier soir. Pour moi, ça a été vraiment encore une révélation. Je le savais, mais encore plus une révélation. Et ça s'en va dans la bonne direction. Et puis, Martin Saint-Louis, quand il dit que son club s'améliore, il avance, il a raison. Et je pense qu'il parle notamment de cette combinaison ou de ce duo de défenseurs, notamment, parce que c'est excitant quand tu es capable de jouer contre le meilleur attaquant de la Ligue. Et il était capable de neutraliser, mis à part cette maudite première minute, t'es capable de le neutraliser. C'est vraiment encourageant.
Ben je comprends. Puis tu sais, quand l'Avalanche marque aussitôt dans le match, c'est facile de se dire oh palais, la soirée pourrait être longue. Mais quelle joie de voir. Dans le fond, c'était facile après une minute, on part à 0-0. Mais quel timing de but, de réplique de Nick Suzuki. Puis, finalement, ça a été un match très serré, bien plus que ce à quoi je me serais attendu, Antoine.
Ah, c'est clair. Et moi également, j'ai eu la même réflexion. Quand j'ai vu le 1-0, je me suis dit, oups, ça risque peut-être d'être long. Puis finalement, tout un jeu de caractère de Nick Suzuki. On a voulu jouer simple, on a essayé d'envoyer la rondelle en son territoire, et puis finalement, ça, une bataille à un contre un qui se gagne en entrée de territoire, puis ça donne une opportunité de ramener les jeux à case départ. Donc Nick Suzuki montre encore à quel point ça s'en va dans la bonne direction, ça va être un leader encore plus que ça l'est déjà, sur le plan offensif du moins, et c'est ça qui est intéressant. Puis Slavkovski qui récupère encore un autre point, pour moi c'est clair qu'il va, on en a déjà discuté ensemble, mais pour moi c'est pas farfelu de penser qu'il va faire 50 points encore cette année, donc ça serait un gros pas vers l'avant pour un gars de deuxième année sur lequel, hey, en début d'année, on n'aurait pas donné, j'aurais pas vendu ma mère pour Slavkovski au début de la saison. Puis maintenant, écoute, c'est dans la discussion.
Là tu négocierais. Madame Roussel, votre fils est prêt à vous échanger.
Non, mais là, je sais où est-ce qu'elle est, je sais qu'elle écoute pas. C'est que
ah, c'est
correct.
Bon, t'en profites, Antoine, mais moi, je suis très excité, puis honnêtement, j'étais pas du tout... oui, je me questionnais par moment, mais tu sais, il fallait toujours bien laisser le temps de revenir. Tu sais, les questions que je me suis posées sur Slavkovski, c'est pas on a-tu repêché le bon, pas, j'ai toujours pensé qu'on avait repêché le bon. Je me suis demandé si on le faisait jouer dans la bonne ligue, mais tu sais, si on a eu les réponses assez rapidement. Tu sais, il y a 6-7 points, je pense, à mi-décembre, puis après ça, il a pris son envol, puis là, il est ailleurs. Mais je reviens sur un élément que tu as dit tout à l'heure, et je pose la question également avec Maxime et Guillaume tout à l'heure à la poche blanche, deuxième heure de l'émission. Ce que tu vois du Canadien, donc tu vois de la progression, tu vois de l'amélioration, puis en deux temps. D'abord, une victoire comme hier contre Colorado. Serais-tu, tu sais, quelqu'un qui va dire, ouais, mais on le sait bien, Colorado les a pris à la légère. C'est quoi la valeur de cette victoire-là avant de te poser la suivante? Ou d'une victoire de même?
Pour moi, c'est une bonne valeur. Une victoire, c'est une victoire. Si un club te prend à la légère, c'est leur problème à eux. Puis c'est eux qui doivent répondre de tout ça par la suite, des choses. Mais en deuxième période, ils n'ont pas fait de quartier aux Canadiens. Le Canadien a plié les chines pas à peu près en deuxième période hier soir.
Oui.
Ça n'a pas été un match parfait. Le Canadien était embourbé dans son territoire, comme il l'est souvent embourbé en deuxième période, parce que ton banc est plus loin, c'est plus difficile de faire des changements. Le Canadien a tendance à des fois ne pas bien gérer la rondelle, donc c'est des scénarios qui s'accumulent et qui font en sorte que généralement en deuxième période c'est un petit peu plus difficile. Mais ils ont été capables de plier, mais ils n'ont pas cassé hier. Et quelle valeur je donne à cette victoire? Une très bonne valeur, parce que on joue contre des bonnes équipes, ça performe bien. C'est parfait comme ça. Puis malheureusement, il y a des fois des soubresauts, il manque de constance, mais c'est une très bonne valeur. J'aimerais juste que cette valeur constante soit là à tous les matchs, mais c'est difficile de le demander à une jeune équipe qui a pas énormément de profondeur à toutes les positions.
OK, alors la deuxième question, c'est dans quelle mesure des résultats comme ceux d'hier et à quelques moments là depuis la deuxième moitié de saison où tu dis que tu sais des fois ça plie mais ça casse pas. Et si tu compares à toutes les équipes du dernier tiers dont certaines sont dans le processus de reconstruction depuis longtemps, vois-tu le Canadien, as-tu des éléments pour argumenter ou pour dire que dans une discussion serrée, tu pourrais dire, non, moi, je suis rassuré par ci ou par ça que le Canadien traînera pas dans la cave bien, bien plus longtemps que cette année. Tu me suis?
Je te suis très bien. Puis, à certaines positions, le Canadien, effectivement, ne traînera pas dans la cave pendant longtemps. Mais, à un moment donné, ça ne peut pas se fier uniquement sur le repêchage. Et je pense qu'on en a parlé ensemble un petit peu.
Oui.
Mais, c'est important à un moment donné d'appuyer sur l'accélérateur, de pas attendre juste le prochain jeune. À un moment donné, il va falloir aller chercher un agent libre ou deux, puis que justement pour épauler tes jeunes. Puis si tu les gardes aussi tes choix repêchage, tu continues d'en faire, sont juste plus dans le top 10, mais ça veut pas dire que ça peut pas devenir des très bons jeunes. Je pense à Dallas notamment avec Johnston. C'est pas un top 10, c'est pas un top 20 non plus. Il est 23e au total, le jeune, puis il produit un rythme d'enfer. Il a 19 ou 20 ans. C'est sensationnel ce qu'il est en train de faire. Et c'est juste que d'être capable d'aller chercher des jeunes qui éventuellement vont pouvoir s'intégrer à ta formation. Puis c'est comme ça que tu changes un petit peu ta roue, puis que tu es capable d'alimenter une bonne équipe pendant plusieurs années aussi. Parce que si tu attends toujours des jeunes qui s'en viennent,
il faut que tu précèdes les choses, il faut que tu bouscules les choses un petit peu. Puis je m'entretiens avec Luc Robitaille tout à l'heure. En fait, l'entrevue a été enregistrée à 19h, mais je la présente tout à l'heure. Puis quand tu regardes les Kings, leur évolution, eux autres aussi ont plongé un peu, puis ils sont revenus vite parce qu'ils ont gardé l'adhésion de Carpenter et Doughty. Fait que, tu sais, ils repartaient pas de zéro, mais il reste que, tu sais, ils avaient fait du ménage pas mal. Mais prends une transaction. Ils vont chercher Fiala, qui va très bien avec eux. Ils ont donné Brock Faber. Et un choix de première ronde. Faber va très, très bien avec le Wild du Minnesota, mais c'est le genre de transaction que Kent Hughes pourrait faire pendant la saison morte, Antoine.
C'est officiel et c'est le genre de transaction que Kent Hughes doit viser. Je suis conscient, puis je suis quasiment certain que c'est le genre de transaction qu'il vise pour améliorer, puis essayer d'aller plus vite. Puis on l'a déjà vu avec des Kirby Dack, des New Hooks. C'est ce genre de transaction qui sont à la recherche des joueurs qui sous-performent, puis qui essaient d'aller avoir, qui vont aller ailleurs, puis qui vont surperformer des Montours de ce monde qui étaient à Buffalo, qui performaient pas très bien, qui vont en Floride, puis ça explose. Donc, des fois, un changement d'environnement pour certains joueurs peut être ultra bénéfique, et ces joueurs-là ont profité. Je pense que on l'a vu hier, un gars comme Casey Middlestat, je pense que c'est le genre de transaction que le Colorado veut faire pour améliorer son équipe, puis le faire plus rapidement en allant chercher un bon jeune centre, puis éventuellement le faire qui explose, puis qui devienne un joueur d'une autre stature. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne moins bien. Mais c'est un bon pari. Moi, j'adore le pari que le Colorado a fait.
Comment as-tu trouvé, puisqu'on a regardé le Colorado, puis je sais que tu regardes des fois le Colorado sans que le Canadien soit impliqué, mais comment t'as trouvé Jonathan là, pour l'avoir joué un match complet? Bon, il n'a pas brillé comme dans le match de dimanche, mais oui, hein?
Non, je suis tellement content pour lui parce que c'est, bien évidemment, ça n'a pas été facile à Montréal pour toutes sortes de raisons. Puis je trouve ça le fun que quelqu'un puisse se rebâtir, puisse se reconstruire, puis puisse vraiment continuer de vivre de sa passion, puis avoir du succès, puis qu'il ait pris cette décision d'aller au Colorado, rejoindre son ami avec lequel il avait vraiment eu du succès, que il avait éclos finalement, puis. C'est très beau à voir, vraiment content. Sincèrement, Mario, je suis content pour ce jeune-là parce que ça n'a pas été évident. On sait qu'il y a eu des problèmes de problèmes mentaux ici à Montréal, que ça n'a pas été nécessairement facile à gérer pour toutes sortes de raisons. Donc, le voir se relever puis avoir du succès à l'extérieur, content pour lui.
C'est très sincère, je le sens chez toi, puis je pense qu'on peut dire que tous les amateurs de hockey ont la même pensée. T'sais, on souhaite pas de mal à un des nôtres, puis à personne, de toute façon, mais surtout pas un gars de chez nous. Fait que tant mieux pour Jonathan, puis j'ai hâte de le voir dans les séries avec l'Avalanche, voir jusqu'où ils vont aller. Sur ce, mon cher, je te dis un gros merci d'avoir été là, et une bonne soirée, Antoine.
Pareillement, Mario.
À bientôt. Bye-bye.
Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.